Вот и себе понял, как бы не было. Жизнь была теста. Вы говорите, что желаете видеть его хорошие муж, там не могло. Хорошие муж, и тут это. А мы сели муж, а стали за ему. Ale ty, a on je jinou skou, že mi ty mera těch to zpání na jinou. To mi jenom na ten kon. Ty jsem ty, no, 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 c'est une enfant. On dirait, si je veux être ta fille, tu veux par exemple, il va monter là, non. Il y a des gens qui viennent ici, même à la radio, qui disent, mais moi j'ai jamais acheté une robe, j'ai 30 ans. Et ils disent ça à la radio. Quand par exemple, les communistes se fait prendre une fois, mais eux, c'est pas les fameux vers communistes, alors qu'elles ne se font pas apprendre. Mais oh Dieu de Dieu, mais je suis pourtant une bonne catholique. Mais vous savez, je suis protestante quand même. Mais la vie est dure. Puis elle a tellement. C'est comme quand vous allez dans un jardin botanique, vous comprenez, il ne faut pas arracher les plantes. Mais vous, vous avez aussi votre petit programme. Puis vous voudriez avoir cette sorte-là. Alors vous dites, je peux bien prendre une. Il y a tellement. Mais c'est tous les ministres. Ce sont des exemples. Et voyez-vous, avec Dieu, c'est l'absolu. Non, vous savez, on me dit, mais ce sont des péchés mignons. Chérie, chérie. On ne peut pas l'abandonner. Au contraire, vous avez un second péché mignon dans le cœur, parce que vous savez, un péché mignon sans lui, pour sa vie. Des jumeaux dans notre famille mère. Puis après, on est fatigué. Puis ça va pas. Puis la conscience est troublée. Ça s'empêche. Moi, vous savez, mon portrait, je l'ai vu quand j'avais 15 ans, très bien. Bien, c'est quand j'ai lu Romain. Et vous avez déjà lu Romain. C'est un petit enfant chrétien, petit saint, ce que vous voulez. Et pendant qu'on est enveloppé par les prières de ses parents, on est séparé du monde sous certaines formes. Mon père était un homme très strict, aimant la parole de Dieu. Mais on a été élevé de façon très stricte. Mon père agit alors que c'était le contraire. Il s'est produit pour lui, il a voulu passer par-dessus la barrière. Moi, j'ai donné du biblique dès mon enfance, enfant. Mais pour autant, je n'ai pas trouvé. C'était des risques. Est-ce que tu reconnais que Jésus est ton sauveur? Est-ce que tu reconnais que c'est un pécheur? Bien sûr, tout le monde vient. Alors, bien oui, je reconnais que c'est un pécheur. Bien sûr. Quelle condition de péché est-ce que j'avais? Pour une fois que j'étais rentré à la maison en disant à ma mère, ma foi, non. Parce que j'avais employé un mot biblique, ah, il me dit, ma foi, on ne dit pas ma foi. La foi, c'est autre chose. Je ne veux pas que tu parles comme ces enfants de la rue. Eh bien oui, je m'en souviens, toi, je ne l'ai pas dit deux fois, je ne l'ai pas commencé. On lui était encore éduqué, vous direz, ben, c'était d'une sévérité. Maintenant, sur les lèvres de nos enfants, on entend n'importe quoi. Mais pourquoi? Parce que nous, les parents, nous sommes responsables, parce qu'on les entend n'importe quoi. Avec la télévision, avec la radio, on les voit, pour ainsi dire, n'importe quoi. Ah non, nous sommes des gens qui contrôlons tout ça. On demande. Nous ne contrôlons pas, c'est pas payé parce qu'ils vont par derrière. Vous connaissez pas votre heure. Il y a, quand on est chrétien, des choses dont il faut absolument s'abstenir. Vous direz, oui, mais alors, ils iront chez le voisin, etc. Moi, j'ai vu ça chez moi, etc. Parce que je veux les garder. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Mais je vous signale certains dangers. Si vous êtes capable de s'en prôner, si vous êtes capable d'être avec eux pour voir ce qu'ils voient, alléluia. et ceux qui la regardent presque nuit et jour, et puis avec tous ces films, même des petits spots, c'est le grand moyen d'évangélisation du monde. Vous le pensez, vous? Je me réjouis chaque fois qu'on peut entendre l'évangile sur la radio, ou chaque fois que l'on peut voir peut-être une prédication des gens venus pour entendre la parole de Dieu. C'est pas cela. Mais c'est une goutte d'eau pour vous faire avaler toute votre vie. C'est vrai, c'est faux. Je sais très bien quand je vois ces fusillés. Mais sauf que la maman, c'est dans le programme. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et si nous devons nous adresser à des hommes, il faut les aimer assez pour leur dire la vérité qui n'est pas la mienne, c'est pas parce que je suis vieux jeu, mais c'est parce que la parole elle est pour tout instant. Et elle est pour notre temps. Et ce que nous disions hier soir, quand on veut mouiller le péché, on est à la fin d'un âge. On est à la fin d'une civilisation. Voyez, vous avez quelques notions d'histoire, et bien vous savez comment l'Antiquité a été bâtie. Bien oui, mais vous dites, oui, mais alors l'an 2000, ça sera quelque chose de merveilleux. Vous le pensez? Mais peut-être qu'avant tout cela, il y aura l'adoration de la mère et de son image, et on est en train d'y aller à grands pas. C'est pas le monde qui va être, et je disais, c'est pas le monde qui va se convertir. Le monde ira de mal en pis. Et Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore, quoi? La foi, mais qu'est-ce que c'est la foi? Une foi qui n'est pas un état statique, mais une vie dynamique, où l'on va de foi en foi. Une marche, non pas par la lune, mais par la foi. Et puis, il dit aussi qu'à cause de l'unicité qui ira en augmentant, l'amour de plusieurs se fragilisera. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des gens qui brûlent d'amour. Il y a des cœurs d'enfants qui brûlent encore, oui, je sais. Que le cœur des enfants peut brûler pour le Seigneur. Mais nous autres, est-ce que nous avons un cœur qui brûle vraiment pour Jésus, qui l'aime de telle manière qu'on l'adore? Parce que c'est le suprême amour. C'est ça, adorer. S'il est aimé tellement qu'on ne trouve plus de mots, et on se passe. C'est tellement grand, c'est tellement beau. C'est pas des bénédictions, on n'adore pas pour des bénédictions, on n'adore pas pour des grâces reçues, mais on l'adore pour ce qu'il. Parce qu'on a découvert qu'en lui, il y a, et qu'il suffit à notre âme déjà sur la terre, et qu'il est la réponse à tous nos besoins. Quand toi seul remplis un cœur. Oui, mes amis, Jésus s'était un pécheur pardonné. Alors ce matin, je vais compléter cette lecture en vous montrant mon portrait. C'était dans le chapitre 3 des Épîtres aux Romains. Vous avez vos bibles, en tout cas vous en avez la mémoire. C'est un vrai réquisitoire en 14 points qu'on trouve dans l'Épître aux Romains. Et il est question là aussi bien du juif, d'un homme religieux, mais qui est maintenant le juif catholique, mais qui est au lieu de catholique protestant, ou orthodoxe, ou même évangélique. Hein, quant à la chaîne. Si je suis né de parents chrétiens, très évangéliques, ben, je suis né quand même de la chair. Hein. Je ne suis pas venu avec une petite chemise. Je suis nul. Comme tout le monde. Nul, je suis sorti du sein maternel. Puis même si on nous a mis pour nous mettre dans le cercueil, hein, on sait très bien que finalement on est nul dans la poussière de la terre. Nous ne devons pas nous faire des illusions, même si vous achetez. Comme j'ai vu la facture d'un cercueil. $10, et c'était garanti, conditionné. J'ai jamais vu un truc pareil, mais j'ai déjà vu un cercueil garanti. Mais nous sommes dingues, les amis, de l'optimisation. La femme dit quelquefois qu'on avait un peu plus bon sens, les intéressés pourraient évidemment davantage agir sans comprendre. donner tout. Je parlais de lui-même, je vous ai d'accord. Vous avez donné cette espèce de don, oui, mais il n'est pas assez bon. Mais il n'est la personne de Jésus, puis nous donne du bon sens. Nous donne du bon sens. Et moi, je crois que c'est très bon pour son un peu bon sens. Parce que nous vivons dans un peuple qui a bon sens, comme on l'a dit au Québec quelque part. Vous devez trouver votre bon sens, et pour sa visée en particulier, quel livre? Le livre des promesses. Qu'il est écrit que ça nous donne du. Et j'ai toujours pensé que, quand j'étais à l'école du dimanche, je devais apprendre après, quand je donnais l'école du dimanche aux enfants, je devais apprendre des proverbes par cœur. Parce que si on leur donne ça, quand ils ont encore la mémoire, ils sont jeunes, bien tâchés, qu'ils ne seront pas dans la vie, qu'ils les garderont parce qu'ils se souviendront de ce texte. Et ils ne se mettront jamais dans telle ou telle situation parce qu'ils savaient que la parole de Dieu dit qu'ils en auraient des conséquences douloureuses. Verset 9, donc, c'est du juif et du grec et du païen. Très bien. Sommes-nous supérieurs? Absolument pas, écrit l'apôtre. Car nous avons déjà prouvé que tous juifs, donc gens religieux au lieu de juifs, hein, pratiquants, si vous voulez, et païens, athées, communistes, tout ce que vous voulez, sont sous quoi? L'empire du. Est-ce que vous croyez ça? Oh, vous voyez, on y croit. Vous vous souvenez, j'ai lu ça une fois à trois jeunes filles malades de tuberculose dans mon pays, là, dans ces années 39 40, à 45. Alors j'avais lu ça. On vous d'accord, oui, c'est la difficulté. C'est des bonnes protestants. Alors on croit rapidement que la Bible. Mais quand on va au fond des choses, on n'est plus d'accord. Merci. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Vous êtes d'accord? Pas même un seul. J'ai dit ça devant un auditoire entièrement catholique. À la fin, quelqu'un avait la main. Pas d'accord. Quoi? Vous avez oublié quelqu'un? Qui? Non. Vous aimez Marie? Oui, je crois que je l'ai encore plus que vous. Il ne faut pas que vous les montrer. Et puis pour vous le montrer, on a l'esprit ensemble le Magnificat. Puis là, on n'a pas peur, parce que tout le monde se connaît le Magnificat par cœur. Hein? On va réciter le Magnificat. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Marie? Mon âme, béni, et mon esprit, se réjouit en Dieu, mon sauveur. Et on recommence. Mon âme est venue au mon esprit, c'est venu en Dieu, mon Seigneur. Donc, ça. En commençant. En chaque personne. Hein? Mon âme est venue au Seigneur, et mon esprit, c'est venu en Dieu, mon Seigneur. Donc, je ne vais pas aller cette histoire comme pour le voudrais là, avec la maman, hein? Mais quand même, trois fois, qu'est-ce que vous avez dit? Alors, c'est toute la fois que j'ai dit. Elle a dit, moi. Alors vous voyez, on peut réciter les prières, hein? C'était fini, il y a plus besoin de discuter. Elle a dit, mon sauveur, et ensuite elle est arrivée au micro en disant, oui, comme votre garçon vous vient de vous le dire, Marie a été sauvée par le procès Saint-Christ. Et il y a peu de quoi? Alors on passe plus loin. Vous comprenez? On peut passer plus loin, et puis, on dit, alors tout à coup, il y a une lumière qui se fait, il y a quelque chose qui se redresse, mais il faut une mise à ce que vous avez été élevé dans ces milieux-là. Eh bien, il faut les comprendre, Jésus s'est incarné, il s'est mis dans la peau, il s'est mis dans notre peau pour venir à nous. Et il a su ce que c'était que nos réactions. Mon frère vous disait, il a été fatigué. Qu'est-ce qu'il a jamais été fatigué? Il ne peut pas comprendre un être fatigué. Il a eu sommeil, il s'est endormi même dans une tempête. Ça est quand même être fatigué pour s'endormir dans la tempête. Et il y a d'autres choses, il a eu faim. Et il a refusé, lui qui avait cette puissance, de transformer des pierres en paix. Il n'a jamais produit sa puissance pour lui-même. Il est resté dépendant de son père en disant, mais quand mon père le voudra, il me donnera ce qu'il espère. Et qu'est-ce qui est arrivé à la fin des tentations? Il a surmonté, mais il mange faim et le service. On n'a pas le courage, on n'a pas la patience d'attendre qu'à ce moment-là, les gens, vous les croyez? Oui, mais je crois. Parce que c'est une délivrance qui est joyeuse quand on a su attendre le dernier quart d'heure. Avec une confiance éperdue en disant, je vais pas m'angoisser, mais je vais me réveiller pour savoir comment il va s'y prendre. La délivrance est bien exceptionnelle, chacun d'entre vous. Mais c'est peut-être le dernier quart d'heure qui est le plus difficile à faire. Comme pour une sentinelle, hein, le matin, quand la nuit se fait plus obscure, vous avez déjà observé ça. Avant l'aube, avant l'aurore, la nuit se fait plus obscure, plus froide, plus sentir davantage, avant qu'il se réveille. Alors c'est le plus mauvais moment pour une sentinelle, qu'on risque de s'assoupir, qu'il faut tenir, jusqu'à l'heure de la relève. Alors mes bien-aimés, sachons avant l'heure de la relève, vivons d'espérance, d'amour et de foi. Il n'y a point juste, non pas de monde. Nul ne cherche Dieu. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'on cherche vraiment Dieu dans le monde? Est-ce que de nature je chercherai Dieu? On cherche autre chose. Mais chercher Dieu, nul ne cherche. Puis après, nul n'est intelligent. Un œuvre, tu me prenez-vous, un investisseur. Nul n'est intelligent. Mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Ah, mais j'ai mes grâces, je suis gradué de ceci, j'ai mes diplômes qui sont sur mon, dans mon bureau, etc. Qu'est-ce qu'est l'intelligence? Se retirer du mal. C'est cela l'intelligence. Voilà la définition que nous en donne le livre de Job au chapitre 5. Se retirer du mal, c'est cela l'intelligence. Les gens se retirent pas du mal, ils courent vers le mal. Nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils sont pervertis. C'est parce que vous voyez, vous lisez les journaux, vous entendez les nouvelles, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les films qui passent? C'est de plus en plus de la pornographie. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. L'orgueil est un sépulcre ouvert, c'est le mensonge partout. Mais les gens mentent comme ils respirent, alors il n'y a plus de confiance. On vous dit ceci, ils n'ont pas même besoin de mentir, ils ont tellement pris l'habitude de mentir qu'ils mentent. Comme si on ne pouvait pas s'en sortir autrement. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'astique. On dit des choses qu'on sait, frère, qu'on souffre, on essaie de démolir quelqu'un. On a du venin d'astique sur nos lèvres, alors que Jésus, lui, il avait des paroles de grâce. Des paroles de grâce étaient sur ses lèvres. Nous, on a du venin d'astique. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répondre du sang. Dieu me voit. J'ai jamais répondu du sang. Quand vous n'aimez pas votre frère, qu'est-ce que vous êtes? Un meurtrier? Celui qui n'aime pas mon frère, c'est un meurtrier. Et vous me direz, oui, qui est mon frère? Qui est mon prochain? Ben, c'est justement celui qui t'a fait du tort. Est-ce que tu pries pour lui? Bien, il s'encourt de la rancune. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas pardonné à quelqu'un? Peut-être un proche de sa famille? Qui a tort, certainement, qu'il a tort, mais vous n'avez pas encore dans votre cœur le pardon? Il faut l'avoir, c'est pour ça que vous n'êtes pas guéri. Il y a une foule de personnes qui sont faites volontiers dans leur prière parce qu'elles n'ont pas pardonné. Or, quand on n'a pas pardonné, Dieu, lui, c'est un obstacle à l'écoute. Alors, c'est cela que je dois avoir. Mon manque de pardon, je dois l'appeler quoi? Péché. Pas synonyme. Mon manque de pardon, c'est un péché. Et c'est ça l'entrave. Alors, je demande au Seigneur de me montrer cela. Et puis que j'aime mon frère, que je ne cours pas chez le voisin pour raconter ce qu'il m'a fait, le mal qu'on m'a fait, mais que je ne l'ai pas fait. La destruction et le malheur sont dans leur voie, ils n'ont pas connu le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas dans leur vie. Vous me direz, oui, mais ça, alors vous nous dressez un tableau du monde en général, c'est peut-être bon pour les Russes, c'est peut-être bon pour les Américains, mais pour nous. Bien, j'ai dû l'accepter pour moi en même temps là-dessus. Et puis, ce qu'il est dit un peu plus loin, il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la. Qu'est-ce que vous avez accepté? mais là-haut, vous savez, la paix que j'ai. Mais pour ça, il faut que je reconnaisse ce qui est dans mon cœur. Parce que ce Romain 3, même si je trouve que c'est un peu fort, je vous en lis un autre passage, au chapitre 17, qui me dit bien ce qu'est mon cœur. Parce que le cœur est tortueux par-dessus tout est incurable. Vous avez accepté ça? Qui peut le connaître? Moi, l'éternel, j'ai trouvé. J'ai trouvé que. Qui peut le connaître, votre cœur? Vous croyez le connaître, votre cœur? Pierre croyait le connaître. Hein? Il disait, Seigneur, pour toi, hein, j'ai tout quitté. Tout ce monde est renommé, pardon. Il ne se connaissait pas. C'était lui qui a renommé. Et il a dû apprendre à se connaître dans le renouvellement spirituel. Alors, quelque chose de terrible, il faut que j'admette que c'est vrai que mon cœur est incurable. Puis, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Quand Jésus remplit mon cœur, eh bien, Jésus nous dit d'abord ce qui doit sortir de mon cœur. Ce qu'il y a dans mon cœur, chapitre 16 de l'évangile de Marc. Et vous verrez que je n'ai pas de Jésus. Jésus disait, verset 1, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les prostitutions, les vols, les meurtres, les adultères, les cupidités, les méchancetés, la rue, le dérèglement, le regard envieux, le blasphème, l'orgueil et la folie. Voilà la vie. Qu'est-ce qui remplit mon cœur? Quand Jésus remplit mon cœur. Il faut que je sois. Mais alors, comment est-ce que j'aurais cette conviction de péché? Notre frère parlait de la nature, parce qu'il vous aime mettre quand vous pensez qu'il y a quand même un créateur. Oui. Comme le disait le même Voltaire, qui ne croyait pas en grand-chose, mais enfin, il a admettait qu'il n'y a pas eu monde sans horloger, ou bien qu'il y ait une horloger. Hein. Le créateur, on admet qu'il y a quelqu'un, qu'il y a quelque chose au commencement. Bon. Alors, si c'est vrai, ce créateur, c'est aussi lui qui m'a fait. Alors, si c'est lui qui m'a fait, je vais le rencontrer. Et je serai devant lui. Et j'aurai donc des comptes à lui rendre. Alors, la nature elle-même me fait éprouver la présence de Dieu. Je connais des gens qui se sont convertis, moi pas dans un culte évangélique, mais sur le sommet d'une montagne, quand ils ont vu la présence de Dieu, ils ne croyaient pas, et tout d'un coup, ils ont été saisis. Comme je connais une chère amie, que j'ai connue dans mon enfance, qui est la mère d'une autre amie, elle s'est convertie, elle est dans un bal à 28 ans. Et on a écrit un livre, c'est que là, j'ai choisi Dieu. Parce que dans ce bal à Genève, elle a vu la vanité et la folie de ce qu'était le monde, ses regards de concupiscence, de tous ces gens riches qui dansaient, qui folâtraient, et c'est dans un bal qu'elle s'est convertie. Puis elle est devenue une des femmes de Dieu, celle qui a lancé la digue de la jeunesse pour la lecture de la Bible. C'est cela que Dieu peut faire. Il peut sauver les âmes hommes, qu'elles sont passées, lui qui sauve. Il peut vous sauver dans cette belle nature, mais ce n'est pas pour vous dire que vous n'avez plus besoin d'aller à l'église, vous n'avez plus besoin d'aller au culte, pas sur la montagne, puis vous prédiquer, comme beaucoup de gens vous le disent, pour excuser leur écartage du dimanche. On a toutes sortes d'excuses. Alors, faisons attention à ce que nous disons devant Dieu, la nature nous parle. Mais il y a aussi la conscience et la nature nous enseigne qu'il y a des lois naturelles qu'on ne doit pas violer. Si vous violez ces lois naturelles, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit de violer les lois naturelles. Est-ce que Dieu vous a fait pour le tabac? Est-ce que Dieu vous a fait pour le tonneau d'alcool? Vous pouvez user de toutes choses. Mais si vous commencez à en abuser, eh bien, qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous détruisez. Mais en vous faisant du mal à vous-même, vous faites du mal à qui? Vous péchez contre qui? Contre Dieu. Quand vous volez la femme de votre prochain, c'est contre qui que vous péchez? Contre le prochain? Contre le monde. Et les conditions de l'adultère, c'est un péché qui est fait contre Dieu. Mais vous n'êtes plus conscient de cela. Parce que Dieu n'est plus au centre. C'est l'amour, le nom de l'amour, que tout faire. C'est faux, mes amis. Alors, quand on a une conscience, mais on essaye de la faire taire. Il y en a qui me disent, mais moi, j'ai pas besoin de la Bible, mon Dieu, c'est ma conscience. Elle nous conduit au niveau de conscience. On s'habitue à certaines choses et on la fait taire. Puis, si on finit la sans Dieu aussi, elle est co-terrorisée. Puis, pour finir aussi, on a une mauvaise conscience. Et la maladie de beaucoup de chrétiens aussi, c'est la mauvaise conscience. Alors, c'est un grand nettoyage pour que réellement nous soyons libérés. Puis, on a la loi qui nous convainc du péché. Pas simplement les commandements, mais la loi reprise par Jésus-Christ. Moïse nous a dit ceci, tu ne commettras pas de péché, mais moi je vous dis que tu as regardé une femme qui va se convertir dans ton cœur, tu as déjà fait un péché. On est tous perdus, là. C'est pas seulement ça, quand tu as convaincu l'objet quelque chose que l'autre a, que toi tu n'as pas. C'est déjà le vol dans ton cœur. J'ai visité beaucoup les prisonniers autrefois dans ma jeunesse. Mais j'ai jamais trouvé des gens qui avaient tué quelqu'un. Ils ont eu la haine. La jalousie. Puis après, il y a eu le moment vraiment favorable, l'occasion favorable. Puis ils sont devenus criminels. Les voleurs, c'est la même chose. On a commencé par dévaliser une banque. On a pris d'abord de la bouche de sa mère, au lieu de rendre la monnaie, quand on était enfant. On ne rendait pas. Et on volait. Ça ne fait pas du vol. Ça fait que des gamineries. Les gamineries, c'est des parades, mais c'est ça. Parce que les nos enfants, ça se sont aussi des idoles. Puis on les soutient, bien souvent, on a les amis des professeurs. C'est toujours pas les professeurs qui ont tort. Alors que peut-être que la remarque du professeur, ben, je vais le voir pour savoir à quoi on est mon enfant. Au lieu que je lui donne des enfants à ses enfants, il brode souvent, il nous raconte des histoires. Alors, nous ne voulons pas démissionner dont nous avons conscience. Puis alors, pour moi, c'est la vie de Christ. Quand je me place dans la lumière de la vie de Jésus, le seul être qui n'est pas péché, hein, parce qu'il a revêtu un corps de chair, mais sans péché. Un corps de chair semblable à la lourde, à colombe, en ressemblance de chair de péché, mais un corps sans péché. Il n'y avait pas de péché en lui, il a été couvert de nos péchés, il a eu nos péchés sur lui, mais il n'y avait pas de péché en lui, en ressemblance de chair de péché. Un corps de péché, un corps qui avait la même apparence et qui avait la même réalité que le nôtre, mais il était pur. Il était l'homme soumis à la volonté de Dieu, ce qu'aurait pu être Adam s'il était resté dans la dépendance de son père. Alors il n'avait pas à mourir. Adam n'avait pas à mourir, il était prédestiné à la gloire éternelle. Et d'étape en étape, il aurait dû se parvenir à la gloire éternelle dans la dépendance de Dieu. Mais il a voulu, au fond, et c'est ça le péché, choisir lui-même. Et la tourner le bon. Alors voilà, le péché, c'est une attitude. On dit non à Dieu. Votre conscience vous parle. Vous savez ce que vous devez faire. Il y a une parole qui a été donnée. Et le péché, c'est donc une désobéissance. Ce sont pas d'abord des actes, c'est une attitude intérieure. Et c'est pourquoi j'ai besoin de me convertir. Moi, j'avais pas une quantité de péchés. C'était pas des péchés grossiers qui pouvaient me convaincre de péchés. Mais c'est la révélation que j'avais une nature déchue. Que ma nature était mauvaise. Que j'avais des mauvaises pensées, que c'était vrai. Et que je ne voudrais pas qu'on voit ça à la télévision. Si télévision, il y avait ce temps-là. En noir et en rouge ou en couleur. Ou ma vie de mes pensées, ce qui nous arrive quand on grandit, à quoi on peut penser, ce qu'on peut désirer. Alors tout à coup j'ai eu cette révélation, mais je ne voudrais pas que les hommes comme moi voient ce qui se passe dans mon cœur, mais ils sont comme moi ces hommes, ils ont les mêmes pensées. Et alors je pense que je peux venir devant Dieu comme ça, Dieu qui est trois fois saint, Dieu dont les anges, les séraphins et les esprits purs se voient la fin. Devant lui en disant, Saint, 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 et l'Éternel des armées, et c'est exactement l'autre à la sainteté, les archanges, les anges. Puis nous, on pense qu'on peut se présenter devant Dieu. Alors, j'ai été convaincu de péché. et Jésus dans la vie, tu dis, moi j'ai pas l'habitude de le voir. Si c'est cette seule vie qui peut rentrer dans le ciel, moi je l'ai pas. J'ai qu'à lui. Alors, vous comprenez, je m'en perdu par une signification, on sait qu'on est perdu, mais alors, pour pardonner, c'est ce qu'on apprend. Maintenant que la parole de Dieu m'a convaincu que j'étais un pécheur, et ça, je peux vérifier que la parole est inspirée, parce que c'est vrai, ça correspond. Je l'ai fait, je vois en moi que c'est vrai. Quand j'admets que c'est vrai, alors je déclare que Dieu est juste. Je déclare que Dieu est juste, mais je suis encore condamné. Mais Dieu alors me révèle qu'il n'est pas seulement juste et saint, mais qu'il est et qu'il peut me. Car il y en a un seul qui peut pardonner nos péchés, c'est Dieu. Mais pour que je puisse être pardonné, il me révèle qu'il s'est incarné et qu'il est venu en son Fils et que c'est en son Fils que je peux avoir le pardon de mes péchés. Le pardon que nous avons, c'est pas un coup d'éponge du bon Dieu sur nos péchés. Nos péchés ont été pris par Jésus, le Fils unique et éternel de Dieu qui a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que, donc, ça me concerne, ça me concerne, quelle que soit la quantité de vos péchés, quelle que soit votre nature, quelle que soit ce que vous ayez vu dans votre cœur, ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Alors j'ai cru au Seigneur Jésus. Alors le Seigneur Jésus, j'ai compris réellement dans mon cœur combien j'en avais besoin, que je ne pouvais plus vivre sans lui, qu'il était mon sauveur, mais. Il m'a conduit haut pour me montrer comment je serais pardonné à la croix. Et là, sur la croix, je l'ai vu mourir, lui expiant mes péchés, vos péchés. Tout ce qui est dans votre cœur, tout ce qui vous fait honte, n'est plus dans votre cœur. Jésus a accepté de prendre place, vraiment ta place. Il a dit, à cause de ceci, le Père même fait que je donne ma vie pour mes. Jésus n'est pas venu sur la terre pour donner un exemple de vie telle que Dieu voudrait dans la vie, parce que c'est un exemple inimitable, mais une fois qu'il a vécu cette vie qui était parfaite et qui recevait sans cesse l'approbation de son Père, c'est mon Fils bien-aimé qui était là, et bien cette vie-là, il a dit, moi je ne la garde pas, je la donne. Mais pour pouvoir mourir, qu'est-ce qu'il a dû faire? Prendre la robe. Il ne serait jamais mort avec ça. Il a pris notre vie dans la sienne. Et c'est ça, c'est accepter de se laisser saisir par lui. Il t'accroche. Le Seigneur, je suis trop mauvais pour que non, je suis venu pour les malades. Je suis venu pour les gens qui sont convaincus d'être mauvais. Et je suis venu pour toi, le désespéré, le coupable, le criminel, toi qui te ronges, toi qui n'as pas la paix. Je suis venu pour toi. Parce que. J'avais besoin de moi. Alors, vous voyez, on l'accepte, mais c'est d'une toute autre manière. On ne va pas forcer d'accepter avec un surplus de bénédiction qu'aura Jésus de tout ceci, tout ça, comme si on était des marchands de Jésus. Non, Jésus, quand tu es convaincu de ses fils, deviendrait mon sang sauveur. Il te donne cette possibilité de te prendre. Et quand il meurt, c'est toi qui quand il est enseveli, c'est toi qui es enseveli avec lui, c'est l'enseignement que vous donnera dans cet après-midi. Et quand il est ressuscité, vous êtes ressuscité en lui. Et alors, ce vieil homme qui vous faisait tant souffrir, il est où maintenant? Dans la mort, vous n'avez plus à vous en occuper. Et c'est là le drame. C'est qu'il y a un tas de chrétiens qui croient au pardon de Dieu, qui ont accepté Jésus, mais qui pensent, oui, ils sont sauvés par la foi, et ils ne sont pas sauvés par les œuvres, dit-il, mais après, ils essayent, depuis leur conversion, de faire des bonnes œuvres. Puis ça ne va pas, parce qu'ils découvrent que leur chair n'est pas améliorée. Et qu'ils ont toujours, peut-être, les mêmes désirs quant à eux-mêmes. Il découvre justement qu'ils sont esclaves de ces anciennes habitudes. La lumière s'est faite au sujet du pardon de Dieu, c'est un coup d'éponge que vraiment il y a eu expiation de vos péchés, vous dit, vous êtes sauvé, vous êtes sûr maintenant de votre salut, vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, parce que vous êtes devenu une brebis du Seigneur, mais au fond, ce qui vous décourage au bout d'un certain temps, c'est que vous voyez que vous avez encore les mêmes tendances. Vous êtes dans un monde où la convoitise règne, et puis vous commencez à vous dire, je suis pas meilleur qu'avant. Oh, j'ai rendu témoignage, j'ai dit ceci, j'ai chanté des cantiques maintenant, mais tout au fond, si on me connaissait vraiment, je suis pas aussi beau que je t'ai promis. L'homme qui s'est élevé dans une salle d'évangélisation, et qui a dit, moi, il y a 6 mois, j'ai été péché. Vous savez ce que le prédicateur a répondu? Vous permettez qu'on demande à votre femme? Grâce. Il s'est resté. On vit souvent dans l'illusion. Si vous croyez que votre chair s'est améliorée et que votre corps est sain, vous n'êtes plus en rien. Dans l'illusion, la chair ne va pas s'améliorer. Mais la chair, quelle doit être sa place? Et la puissance du Saint-Esprit, c'est cela qu'il vous faut. C'est la puissance d'un homme qui vous tient dans la mort. Parce que moi, je ne peux pas vous tenir dans la mort. Je suis un écoué. Mais nous sommes des écoués. Nous voulons rêver, non seulement clouer, mais ensevelir. Vous vous éloignez dans le baptême, vous avez été enseveli, vous êtes sorti. Enseveli. C'est par la foi, c'est pas par le sentiment, si vous attendez de sentir tous les frais dans la mort. Vous attendez longtemps, quoi. Vous étiez mort dans vos fautes et dans vos péchés. Ah non, vous ne vous rouvrez pas contre, vous étiez dans vos péchés. Vous étiez mort spirituellement dans vos fautes et dans vos péchés. Eh bien, de cette mort spirituelle, il faut passer dans une autre mort. La mort de Jésus. Quand Jésus a été crucifié, tu as été crucifié. Quand Jésus a été enseveli, tu as été enseveli. Mais quand Jésus est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Et pour qui vit-il Jésus maintenant? Pour Dieu. Alors toi maintenant, est-ce qu'on va t'occuper de tes péchés? Est-ce qu'on va t'occuper de ta mauvaise nature? Ta mauvaise nature, elle a été ensevelie en Jésus. Tu n'as plus à t'occuper de toi, à demander des bénédictions sur toi, pour que tu sois mieux, pour que les gens rendent un bon témoignage de toi. Et quand tu vis cela, tu vis pour qui? Pour Dieu. Et dans la mesure où tu as saisi cela, tu es libéré de ton esclavage. Avant, tu étais sous l'empire du péché, tu étais esclave du péché, mais maintenant, tu es esclave de qui? Et c'est non seulement ton âme que tu as donné au Seigneur, mais ton corps. Parce que c'est avec notre corps, avec nos membres que nous péchons, avec nos yeux, avec nos oreilles, avec nos lèvres, avec notre cœur, avec nos mains, avec nos pieds, et bien c'est cela que Dieu réclame de toi. Tu n'es plus à toi-même. Tu as un sauveur. Et quand tu crois en Jésus qui t'a racheté, et bien oui, quand tu crois au sauveur, tu es alors racheté. Mais en racheté, il n'appartient plus, il appartient à son Seigneur, à celui qui a payé le prix. Alors tu es maintenant un Seigneur. Tu lui appartiens et tu deviens esclave, mais volontaire du Seigneur. Tu dis, bien, Seigneur, maintenant, moi je n'ai plus des questions, des péchés, c'est toi qui t'en es occupé. Je sais très bien qu'en ma chair, il n'y a pas de bien. Mais maintenant, je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce, et maintenant je t'appartiens. C'est plus moi qui fais les plans. Et alors, vous êtes absolument absorbé par cette pensée que tu appartiens à. Avant, tu disais, Jésus m'appartient. C'est déjà quelque chose. Hein. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dis? J'appartiens à Dieu. Alors, c'est Dieu qui se charge de toi. C'est Dieu qui va te charger de toi. Et je vais terminer ce matin dans cette lecture sur que nous sommes, nous étions des esclaves et un chrétien authentique, c'est quelqu'un qui a compris que il resterait toujours esclave, mais esclave maintenant d'un homme. Avant j'étais esclave du péché, trouver trop de chrétiens qui se cassent eux-mêmes, qui ont encore leur moi au sang. C'est plus toi. Tu n'es plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Et écoutez, et ça sera la dernière parole, pour que ce soit bien Jésus qui vous parle. Au chapitre 8 de Jean. Je sais pas. Comme Jésus parlait, plusieurs crurent en lui. Et quand on prend en lui, qu'est-ce qu'on a un besoin d'entendre? Ah oh, ben c'est fini, je crois. Voilà, c'est maintenant qu'on peut commencer dans la quelque chose. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, à vous qui allez cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples authentiques. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra. Qu'est-ce qui va vous rendre? La vérité. Et qui est la vérité? C'est lui qui va faire l'œuvre de cette libération, comme il a fait l'œuvre de l'expiation, il va faire l'œuvre de la libération. Nous aurons l'occasion d'en parler. Il lui répondit, mais nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Vous voyez comment on peut lui donner les yeux? Même pas qu'on croit. Mais moi je t'ai libéré. Oui, mais est-ce que tu l'aimes, non? Dans la pratique. De nombreux trois personnes en ayant délié peut-être des péchés grossiers, mais est-ce que ton cœur rempli du Seigneur, ton Jésus rempli ton cœur? Qu'est-ce qui est la préoccupation première de tes pensées? Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre, authentiquement libre, pour avoir une vie saine, un esprit sain, une âme saine, pour en avoir fini avec vos dépressions nerveuses, pour que vous puissiez vraiment vivre dans la joie. Il vous faut vous laisser accomplir par le Fils. Et Jésus a ceci dit encore à ses disciples, moi je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de votre Père, qui est notre Père, qui était notre Père. C'était ça, ça. Et lui, Satan, hein, c'est lui qui a produit toutes les religions, hein, toute la religion, et alors il a influencé toute la religion, toutes les religions, et il les influence encore maintenant dans tous les milieux. Satan a un pouvoir terrible. Et vous savez, on introduit maintenant toute la musique la plus mondaine, la plus bestiale, on introduit jusque dans les milieux évangéliques, en mettant des paroles évangéliques. Puis on pense qu'avec ça, on va attirer la jeunesse. C'est faux, je vous en supplie, réveillez-vous. Alpha. Vous me dites que nos jeunes, ils aiment ça. Mais, si tu es chrétien, il y a une souffrance, il y a un témoignage, il y a un renoncement, c'est des choses auxquelles je renonce, je dis non. Être délivré d'esclaves. Car voyez-vous, on est toujours esclaves. C'est tout par qu'on est libre. Alors posez-vous cette question. Est-ce que je suis vraiment un esclave? Libéré du péché, mais maintenant donné à Dieu pour que mes membres soient renvoyés comme des instruments de justice, pour que Dieu puisse faire avec moi. Vous savez, Dieu a besoin des hommes. Mais c'est pas avec beaucoup de monde qu'il travaille, c'est pas avec la foule qu'il va travailler, c'est avec ses individus. Et s'il y a ici des individus, jeunes gens, jeunes filles, qui comprennent en ce jour, du 13 septembre 1986, Seigneur me prend mon cœur et les attentes, c'est une autre chose. en lui ou dans les deux célestes. Au-dessus de quoi? De toutes les puissances spirituelles de méchanceté, de sorte que le combat, nous le menons de dessus le trône, donc nous avons l'avantage. Le chrétien peut avoir la victoire, non pas seulement des victoires occasionnelles, mais la victoire, et l'ennemi est victorieux. Alors vous menez le combat de dessus le trône, mais on n'est pas dans le ciel en demi nuage, il nous a redonné à la terre, dans la nouvelle naissance, par le baptême du Saint-Esprit, et nous redonne à la terre pour qu'on ait témoignage. Et alors, ce témoignage, on le rend dans quelle puissance? Dans la puissance du Saint-Esprit. Si à ma naissance je suis entré en Dieu, à ma nouvelle naissance, Dieu m'a redonné au monde à vivre. De quoi? De la vie en terre. Quand nous sommes redonnés au monde pour un témoignage étant maintenant du ciel, notre patrie est dans le ciel, notre gouvernement est un gouvernement céleste, eh bien nous sommes revenus au monde, mais équipés de l'armure complète de Dieu. Ayant la ceinture de vérité, plus longtemps, finie, je dis non au mensonge, couvert de la cuirasse de la justice. Une justice pratique, qui me donne une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. On peut me critiquer, c'est ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que j'ai l'approbation de Dieu. Ne plus rien faire sans avoir l'approbation de Dieu. Et chercher à ne plus rien dire sans que ce soit des paroles qu'on a entendues de lui. Et puis, ça se surprend parce qu'on est toujours dans la chair. Alors, on s'unit. Le Saint-Esprit est une puissance très sensible, une personne très sensible en nous, qui nous montre tout de suite que ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se... Si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous pardonner et nous purifier. Mais on ne laisse pas s'entasser les fautes. On juge immédiatement. On vit dans le jugement soi-même. Quotidiennement, heure après heure, moment après moment. C'est ça que Jean veut dire. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous séduisons nous-mêmes, nous mentons. Mais si nous confessons nos péchés. Et alors, si nous marchons ici dans la lumière, c'est-à-dire dans la pleine révélation de ce que Dieu est, dans la lumière, tout ce qui n'est pas selon Dieu nous est manifesté immédiatement. Et alors, marcher dans la lumière, ce serait aller au suicide, s'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Parce que quand on marche dans la lumière, immédiatement, tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu nous est manifesté. Et là, je dis, oh, comme c'était vrai que j'avais besoin de Dieu, comme c'était vrai que j'avais une mauvaise foi. Et je le bénis, le sang est là, et qui a expié toutes mes fautes. Et alors, on marche quotidiennement dans cette lumière, et rien ne peut troubler nos cœurs. Avez-vous dit, un jour au Seigneur, tu touches. Je laisse des pistes de réflexion pour cet après-midi, je ne sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit. l'élection du Président. Qu'on soit, qu'on soit, je suis péché contre lui. Il dit contre la foi, contre la foi, j'ai péché en descendant de son enfant. Mais voilà, il a dit, j'ai péché, mais c'est un vieux péché qui a là sauvé. Et Daniel, le Dieu, il a dit, nous avons péché. Et il a eu la réponse. Ça, c'est bien ça. Mais il a confessé pour lui-même. Alors, il ne faut pas seulement confesser, mais il faut souligner, il faut savoir se repentir, souffrir, voir la gravité de ce péché. Et la gravité de mon péché, moi j'ai toujours été renouvelé dans mon amour en retournant à la croix. Chaque fois que j'ai demandé au Seigneur, donne-moi plus d'amour pour toi, il m'a toujours convaincu, une fois de plus, du péché en me ramenant à la croix dans une vision de mon Sauveur qui a tant souffert à la croix. Alors on est renouvelé dans le pardon. Je me dis, mais maintenant, Seigneur, c'est pour horrible le péché. Si je garde à disposition de mes mains, je pécherai avec mes mains. Si je garde à disposition de mes yeux, je pécherai avec mes yeux. Et mes pieds suivront mes yeux, mon cœur suivra mes yeux. Et je suis de nouveau perdu parce que je suis dans un monde de convoyance. Alors, Seigneur, maintenant, moi, je peux suivre mes mains. Livrer mon corps à Dieu comme un ciment de chute. Et plus livrer mon péché.
Ce que nous te demandons, c'est que tu prolonges toi-même ces moments dans chacune de nous. Ce n'est pas avec nous-mêmes que les hommes doivent avoir affaire, mais c'est avec toi. Parce que tu sais que la condition sainte, c'est que chaque individu, chaque âme, puisse être en telle relation personnelle avec toi, qu'elle devienne pour sa communauté, pour sa famille, une source de bénédiction, une source de grâce. Cette fontaine qui jaillit en vie éternelle, que ce ne soit plus des âmes qui ont besoin des autres seulement pour vivre la vie chrétienne, mais que ce soit des âmes qui aiment à trouver une sacrée, que tu veux révéler à Dieu, qui veut te suivre, qui t'aime, dont le cœur sera rempli de toi. Seigneur, montre-moi ce qui dans mon cœur n'est pas encore à ta place. Tu ne veux pas que nous vivrions la même prospection, mais que tu peux nous aider, que tu sois clair. Que ce soit que nous puissions le penser. Et que d'ailleurs, quand c'est que nous nous donnons quelque chose pour que nous puissions courir à toi en te laissant nous poser et nous prendre, que nous ne cherchions plus à faire des bonnes œuvres, mais que nous puissions avoir le discernement de voir les œuvres que toi tu as préparées là-bas pour que nous les passions. Tu vois toutes ces œuvres chrétiennes, discrètes, on demande de l'argent, de tous les côtés. Alors que, quand c'est ton âme, c'est toi qui donnes. Tu donnes ce que tu en as. On n'est pas dans le rouge avec toi. Car tu ne peux pas nous mentir. Tu es le Dieu vivant, tu es Dieu toi seul. Et tu te soumets de notre force, n'est pas la force des pierres, que notre chair n'est pas des reins. Tu ne nous demandes pas si c'est impossible. Et ce n'est pas nous qui avons les possibilités, c'est toi qui rend possible toute chose. En possible. Oh Seigneur Jésus, que nous puissions entendre que maintenant tu désires posséder et racheter pour établir sur eux, sur leurs pensées, sur leurs actes, sur leurs paroles, ta Seigneurie. Oui. Dans un monde où tant de bergers dégagent les âmes, parce qu'ils s'inspirent du monde et de ce qui se fait dans le monde, de ce qui réussit dans le monde, alors que nous savons bien que le prince de monde, c'est ça. Donne-nous d'être de ceux qui retrouvent la dimension du silence, d'être de ceux qui retrouvent le contact personnel avec le Dieu vivant et qui arrive à se prendre. Nous te demandons pour que tu nous relèves, comme tu as relevé tous ces hommes de Dieu dans la vie, qui se sont effondrés dans ta lumière, que ce soit Moïse devant le buisson ardent, que ce soit Job dans son expérience, que ce soit Daniel, que ce soit Isaac, qui s'écrit malheur à moi, je t'aime, que ce soit ton œuvre qui nous purifie, qui nous sanctifie, et que nous puissions dire ensuite, quand nous entendons ta voix, qui en est réel, et qui ira pour nous, me voici. Guide-nous dans cette journée. Prépare nos cœurs pour cette soirée. Est-ce que tu avais décidé pour ces moments que nous passons ensemble à méditer ta parole, que tu l'accomplisses et que personne ne puisse pas sans avoir reçu. Non pas une réponse de nous, mais une tarte et tant la gloire de Père au nom de Dieu et par la seule puissance du Saint-Esprit.
Il faut avoir un
mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Et on peut dire qu'il en ressentait les effets même physiques. Son état physique se délabrait. Ma vigueur n'était plus qu'une sécheresse, comme celle de l'été. Et à un moment donné, c'est dit, je vivais de l'air. Mon péché, je n'ai pas couvert ma faute, j'ai dit que je confessais mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. C'est une question réglée, c'est une question finie, Dieu ne s'en souvient plus, il ne reviendra pas sur ce passé. Si ce passé, vous l'avez confessé, si vous troublez dans le présent, vous l'avez avoué, apporté au Seigneur en l'appelant par son nom, eh bien, vous devez connaître le pardon de Dieu. Et c'est un pardon total. C'est non pas un coup d'éponge, mais vous pouvez être sûr que ces péchés que vous avez confessés ont été pardonnés parce qu'ils ont été expiés. Cela a coûté extrêmement cher et c'est pourquoi votre conscience peut être à l'aise. Ce n'est pas à vous qui avez pu vous racheter, ce n'est pas à vous qui avez pu expier votre faute, mais quelqu'un a expié votre faute. Ce péché que vous avez commis dans votre chair, le Seigneur l'a pris et il a été jugé dans sa chair à lui, car il a pris une chair semblable à la nôtre, afin de pouvoir dans son corps prendre nos péchés sur son corps, sur le bois. Et juste là, contre Pierre nous dit qu'il a porté nos péchés en son corps sur le bois. S'il les a pris, est-ce qu'ils sont encore sur vous? Non, ils ne sont plus sur vous et ils ne reviendront plus sur vous. C'est à jamais qu'il les a pris sur lui, car il a vraiment ôté le péché du monde. Et pour l'ôter du monde, eh bien, il a accepté vraiment d'aller jusqu'au bout. Il est mort. Et il est mort dans l'abandon de son Dieu. Et pour quelle raison? Parce qu'il avait nos péchés sur lui. Et que Dieu ne peut pas avoir communion avec le péché. Et quand il s'est crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous ne savons pourquoi. Nous pouvons répondre à ce pourquoi, c'était pour moi. Alors, vous comprenez, je ne peux plus traiter le péché à la légère. Quand je sais ce que cela a coûté à mon Seigneur, à mon Sauveur, au Fils unique du Père, et bien la haine du péché m'est du péché. Mais comment est-ce que je pourrais encore me livrer au péché, livrer mes membres au péché, quand je sais que les seuls membres qui n'avaient pas péché ont été cloués sur la croix. Quand je sais que son front, lui qui n'avait que de belles pensées, a été couronné d'épines, comment pourrais-je encore me livrer en fermant les yeux à toute espèce de mauvaise pensée? Vous savez combien cela souvent peut nous arriver. On ferme ses yeux, puis on pense au mal, etc. Et le péché est là dans notre cœur, et tout à coup on est saisi, parce que le Saint-Esprit ne tolère pas plus les pensées que les actes. Nous devons comprendre que l'œuvre de Jésus et voir et vos et penser. Car de toutes nos paroles, nous aurons à rendre compte, j'insiste, de ce fait, et puis de nos actions aussi, nous aurons à rendre compte devant nos dieux. Alors nous voudrions que nos paroles et nos actions soient véritablement à la gloire de Dieu. Et pour cela, nous lui demandons ce soir de rendre nos pensées captives à l'obéissance du Christ. Car voyez-vous, nous l'avons dit que un chrétien authentique, c'est un pécheur libéré. Vous savez ce que c'est que le péché. Il vous a été manifesté, vous l'appelez maintenant par son nom, vous l'avez vu en vous, et vous l'avez confessé, mais maintenant, vous l'avez vu sur le Christ. Et ce que méritaient vos fautes, ce que méritaient vos péchés, vous l'avez contemplé à la croix. Cet homme, son péché, qui n'avait fait que le bien, a été crucifié pour moi. Quand on nous dit que le salut par grâce, c'est gratuit. Oui, c'est vrai, c'est gratuit. Mais vous l'avez bien compris, le prix de la grâce, c'est quoi? Le prix de cette grâce, qui est pour vous, oui, un don de Dieu, mais ce prix a été payé par Jésus. Et il a payé avec de l'or, de l'argent. Il a payé avec sa vie. Avec son sang, car le sang, c'est la vie. Sa vie a été donnée pour me racheter de toutes mes fautes. Et Dieu a accepté que celui qui était parfaitement à sa gloire rachète toutes les autres vies des pécheurs. Si bien souvent vous vous estimez, c'est quand même épouvantable de penser qu'à cause de la faute d'un seul homme, d'Adam, tous les hommes sont pécheurs, et puis vous vous posez beaucoup de questions à ce sujet, mais j'aimerais que vous oubliez ça, puis que vous pensiez que par la justice d'un seul petit de Jésus, du second Adam, du dernier Adam, par la justice d'un seul, Dieu dit que tout peut être vous devenez juste lorsque vous reconnaissez que vous êtes péché. Pas parce que vous l'avez dit que tout était péché, mais est-ce que vous avez été saisi par cette conviction de péché? Car on a dit souvent qu'une conversion, elle ne vaut que ce qu'elle coûte. Et c'est vrai, quand on s'est vu vraiment dans sa misère, dans sa grâce, voyez-vous, tous les hommes de Dieu ont passé par là. Les plus sages, les plus saints, les plus fidèles, quand ils ont été dans la présence. Et je voudrais vous demander, n'ayez pas de repos. Si vous n'avez pas encore eu cette rencontre avec le Seigneur, n'ayez pas de repos. Dites-lui, je voudrais avoir cette rencontre avec toi. Mais alors, ne vous attendez pas à ce que vous vous voyez très bon. Parce que si vous vous voyez aujourd'hui, vous trouverez que le portrait est beaucoup plus laid que celui de votre conversion. Quand vous vous êtes converti au Seigneur, vous vous trouviez peut-être mauvais, mais si vous vous voyez aujourd'hui dans la lumière du Seigneur, vous vous direz, j'ai la foi. Malheureusement, je suis perdu. Vous aurez vraiment ce sentiment et vous connaîtrez alors ce qu'est la grâce de Dieu. Plus vous vous verrez noir, plus la grâce de Dieu vous apparaîtra lumineuse. Et plus vous en jouirez, vous n'abuserez plus de la grâce en disant, bien, tout est grâce, on peut faire n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Quelque chose de plus nouveau se manifestera en vous. Et vous comprendrez alors pourquoi, quand on a reçu Jésus, on ne peut plus être esclave du péché. Quand on a eu la révélation de ce qui est péché à la croix. Je pense à cette expression de Paul ici. Celui qui était sans péché, qui était sans péché. qu'il a été fait péché pour nous, traité comme le péché l'est. Vous ne comprendrez jamais la venue de Jésus-Marie si vous n'avez pas la révélation de ce que ça a été pour Jésus. De lui qui avait une âme si sainte, si pure, la vérité absolue, de devenir le mensonge absolu que nous sommes. Car que Dieu soit vrai, et tout homme menteur, nous sommes menteurs de nature. De devenir l'insulté absolu, alors qu'il était pur. Il fallait que l'être le plus impur, il fallait que ceux qui se sont livrés aux pires choses, que ceux qui ont eu toute espèce de fantasme, qui les ont peut-être encore, eh bien qu'ils sachent qu'ils se sont délivrés de tout cela, parce que Jésus a accepté de prendre et d'être comme si c'était lui qui avait fait cela, et de recevoir comment ne pas l'aimer, frères et sœurs? Est-ce que nos cœurs sont autant froids pour lui? Est-ce que nous ne sommes que des pécheurs en peinture? Alors, comme je l'ai dit souvent, répétant une phrase de Sophiste qui enseignait Luther, si vous n'êtes qu'un pécheur en peinture, vous n'avez qu'un sauveur en peinture. Il faut autre chose d'un sauveur en peinture. Vous n'êtes pas des pécheurs en peinture, moi non plus. Nous sommes des pécheurs. Paul disait, je suis le premier des pécheurs. Mais il pouvait parler de sang sauveur. Et il m'a aimé. Vous pouvez dire, il m'a aimé. Ce soir. Vous êtes conscient de ça. Il m'a aimé. Et c'est livré lui-même pour moi. Et à quoi s'est-il livré? À la croix. Au supplice le plus odieux. Au supplice le plus abominable. Il a été exposé au regard pudique de la foule. Et il est mort dans un océan de sang. Et nous. À tel point que même la création s'est voilée parce qu'elle ne pouvait plus voir ce tableau de son créateur mourant de la croix. Les ténèbres ont couvert la face de ce monde et ce passé. Un vécu qui manifestait la méchanceté du cœur de l'homme. Que si l'homme pouvait tenir Dieu dans ses mains, ce qu'il en fait. Il le tuerait. Et l'homme a vraiment tué Dieu. Et a ce qu'il pouvait tuer. Et en tuant Jésus, oh mes amis, Satan a été complètement vaincu. Car alors qu'il croyait avoir la victoire, ayant vu blesser le Messie qui était annoncé depuis tant de millénaires, ayant vu le blesser au talon, c'est-à-dire la peur dans son humanité, comme elle avait annoncé le livre de la Genèse, la postérité de la femme, qui est la postérité de la femme, sinon Jésus, le fils de Marie, la postérité de la femme, c'est pas la femme qui a blessé, qui a écrasé la tête du serpent, c'est sa postérité, c'est le fils de Marie, a écrasé la tête du serpent, alors que le serpent réussissait à la blesser, cette postérité, au talon, c'est-à-dire à atteindre le Seigneur dans son humanité. C'est avec le talon qu'on touche la tête. Et Jésus avait revêtu notre humanité pour pouvoir mourir. Parce que les sacrifices des taureaux, des agneaux et des boucs devaient être sans cesse renouvelés, il fallait le sang d'une victime autre que celle des animaux, autre que celle des enfants, que celui des enfants, le sang des enfants qu'on voyait sortir de tous les autels païens, et même sur les autels juifs. Parce que tout cela foule de convertis, une foule de gens qui sont toujours avec leur Christ. Et il y a tant de déprimés, tant de gens qui doivent se faire soigner ici ou là, tout en confessant que Jésus-Christ est leur sauveur. Mais pour quelle raison? C'est parce que on ne va pas au fond des gens. C'est parce qu'on a une foi tout à fait conventionnelle, une foi superficielle. C'est qu'on ne s'est pas emparé de ces vérités pour qu'elles nous deviennent intérieures, pour qu'on en dise qu'elles deviennent nôtres, qu'on dise c'est vrai de vrai. Il a ôté le péché. Bon, Dieu ne s'en souvient plus. Et si tu as confessé ton péché, Dieu ne veut pas que tu vives dans le souvenir de tes fautes. C'est vrai, c'est faux ce que je vous dis. Si vous lisez le psaume 103, il est dit qu'autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il a éloigné de lui, de Lyon, notre Seigneur. J'ai très souvent entendu cette phrase dans une prière, les gens disent qu'il l'a éloigné de lui. C'est vrai dans un sens. Dieu les a jetés derrière son dos, dans les profondeurs de la mer. Il a dit qu'il ne se souvient plus de nos péchés ni de nos iniquités, mais il ne veut pas non plus que nous vivions toujours dans le sourire de nos fautes, ce qui paralyserait notre témoignage. Parce qu'on dit qu'il voit la bouteille, la fois on a fait mon témoignage. Il n'est plus question de savoir si vous avez fait mon témoignage. Il est question de savoir si Jésus a assez fait pour liquider la question de vos péchés. Mais alors comprenez-le bien, quand il a donné sa vie, il vous a pris la vôtre. Et quand il a donné sa vie, quelle est la vie qui a pris fin dans la vie de Jésus? Saisissons-le bien par l'esprit. Quelle est la vie qui a pris fin dans la vie de Jésus? Seulement la tienne? La vôtre! C'est cela le grand salut de Dieu, pas ce petit salut qu'on annonce si souvent en disant pourvu que les gens soient sauvés. Pourvu que les gens soient sauvés. C'est tout ce que vous voulez. Et sauvez-moi. Oh, pas dans l'enfer. Je vous démontre un peu plus d'abord, alors, mais il y a fait encore l'enfer pour mourir en paix. Non, vous avez besoin d'être sauvés pour vivre et pour vivre aujourd'hui, en 1986, dans le contexte actuel, mais pour y vivre avec les possibilités de Dieu. Alors, je ne veux pas que vous viviez comme si vous étiez encore dans vos péchés et que vous récitiez toujours la même liturgie qui vous replace toujours en face de vos péchés. Vos péchés ne sont plus, ils ont été effacés. Et maintenant, mort dans la mort de Jésus, enseveli avec lui, et vous en avez témoigné certainement par le baptême, par cette immersion, comme Jésus est mort, je suis mort, ma vie passée, mais comme Jésus est ressuscité, eh bien, il me ressuscite avec lui, je suis ressuscité en lui, et je suis mort. Et j'ai à le considérer comme mort, même si je ne le sens pas, même si je me sens bien vivant, même si je vois que j'ai encore des pensées comme ceci, et des paroles aussi, dont je dois m'humilier, je me suis laissé s'effondrer par Satan, parce que nous avons encore un terrible ennemi qui nous a perdus, n'est-ce pas? Mais voyons qu'il nous a perdus pour l'éternité, qu'est-ce qu'il voudrait nous enlever? La foi. Que nous donne pour que nous soyons des chrétiens malheureux, des chrétiens aux langues figures, des chrétiens plaignants, se plaignant de tout leur amour. Il n'y a pas des gens pour se plaindre autant que les chrétiens. Ils ont tous les mots possibles, tous les mots imaginaires. Je ne vais pas vous dire que vous n'avez pas de mots. Mais le Seigneur est venu et il porte aussi vos douleurs, il s'est chargé de vos douleurs et de vos langages. Et vous pouvez lui en parler, comme il a pris vos soucis, comme il a pris le péché n'a pas été entré en sympathie en toutes vos circonstances. Alors dites-lui, dites-lui comme je dis, ma force n'est pas la force des pierres, ma chair n'est pas des reins. Seigneur, j'en supplie, ça c'est une vraie prise. Dites-lui, et vous verrez qu'il fera. Il n'est pas. Mais demandez, j'ai une invité évangélique, ça. Demandez, et vous c'est vrai. Frappez, et donc non, mais où frappez-vous? À toutes les portes des hommes. Frappez, et on vous ouvrira. Demandez, et vous en pourrez. Oui, Seigneur, je vous bénis. Le Seigneur ne veut pas que vous repartiez avec vous. Maintenant qu'il a pris vos péchés, maintenant que vous avez une vie en vie, c'est ça qui est vrai. Alors ne regardez plus à ce que vous ressentez, à ce que vous éprouvez intérieurement. Vous n'êtes toujours pas dans un corps de chair, la votre chair n'a pas changé. C'est pas le changement de la chair, c'est pas une amélioration de la chair. La conversion n'est pas une amélioration de la chair. La chair reste la chair. Mais le vieil homme, c'est-à-dire la manifestation de la chair et du péché, votre ancienne manière de vivre, elle a pris fin à la croix. Comprenez-moi. Votre vieil homme, il a été crucifié avec Christ. Cette ancienne manière de vivre que vous avez reçue aussi de vos pères, tout cela a pris fin à la croix. Et maintenant, vous avez une nouvelle manière de vivre. Alors, cette identification avec le Christ continue. Il est ressuscité, et où est-il? Il est monté à la droite de Dieu, et où êtes-vous? En lui, déjà dans les lieux célestes, béni de quelque misérable bénéfice. C'est ça le texte de vos Bibles révisées? Béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Mais où cherchez-vous les bénédictions? Sur la terre ou dans le ciel? Mais le ciel, je sais avec un aveugle. De toute façon, avec un aveugle, il n'est pas si loin. Parce que vous arrivez simplement à flotter. Mais vous ne pouviez pas. Oui, vous aviez arraché, comme je dis quelquefois, à l'attraction de la terre. Oui. La loi de la pesanteur, il vous y arraché. Mais ensuite, il faut aller plus loin. Et personne dans la science n'a pu connaître. Et notre loi, cette loi de l'esprit de vie, qui nous donne des corps de régression, des corps transformés, nous arrachera à la pesanteur. On est dans la pesanteur là-haut, pour nous conduire vers une demeure de la maison du Père, dans des corps nouveaux, dans des corps blancs, pour y occuper ces places que Jésus dans son amour nous a préparé. Alors, nos cœurs, notre enlèvement spirituel, en quelque sorte, je dirais qu'il est, il a déjà eu lieu. Qu'est-ce que nous sommes? Bourgeois des cieux. Gens de quelle maison? Gens de la maison de Dieu. Ce n'est pas des mots, ce n'est pas des phrases polynéennes. C'est la réalité. Authentiquement chrétien, un chrétien, il est gens de la maison de Dieu. De quelle maison êtes-vous parti? Ça m'intéresse pas de savoir votre étiquette religieuse. Je ne la maîtrise pas, loin de là. Et j'espère que vous êtes un bon témoin dans votre groupe. Mais ce qui compte avant tout, c'est que vous soyez gens de la maison de Dieu. Et que tous vos ordres, vous les receviez d'en haut. Car pour le temps de son absence, le Seigneur ayant besoin de témoins sur la terre, il nous a redonné à la terre pour être ses témoins. Il nous laisse dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et s'il nous envoie dans le monde, il nous envoie comme tu m'as envoyé, je les ai envoyés. Mais nous sommes envoyés, équipés, comme nous disions ce matin, de toute l'armure de Dieu. Et il ne doit rien manquer à cette armure. L'armure complète de Dieu, qui est la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures de la paix, et puis ces armes défensives, le bouclier de la foi pour y grâce à la vie. Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Parce que les choses que nous lui demandons à ce Père, nous les lui demandons parce qu'elles sont selon la volonté du Seigneur. Nous les lui demandons au nom de Jésus, que ça veut dire.